Bonjour. C'est avec cette musique grecque de Syrtaki que je vous accueille ce matin à l'église évangélique de Mérin. Je vous souhaite la bienvenue à vous présentes et présents dans cette salle et à vous qui êtes chez vous derrière votre écran. Musique grecque, oui, d'une part parce qu'on a un peu besoin de soleil quand même, pas du sable jaune mais du soleil. Et car ces prochains dimanches, nous allons partir avec l'équipe pastorale à Thessalonique. Y chercher peut-être justement du soleil, mais surtout suivre les pas de Paul et de Silas à la rencontre des Thessaloniciens. Paul et Silas ont été appelés par Dieu à partager l'évangile du Christ dans cette cité, dans cette contrée. Notre guide Michelin d'aujourd'hui, pour nous introduire à Thessalonique, sera Paul Robert, et peut-être nous conduira-t-il jusqu'à la synagogue où auront lieu les premières discussions sur les Écritures. Équipez-vous de sandales, d'une gourde, d'un chapeau, car le déplacement ne va pas être de tout repos. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ta présence sur notre culte, sur ce cheminement que nous allons faire aujourd'hui et ces prochains dimanches. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous parles. Tu nous encourages, tu amènes ta présence dans nos cœurs, et Seigneur, que nous puissions comprendre, nous puissions cheminer avec toi. Alors Seigneur Jésus, que nous soyons ici dans cette salle, que nous soyons derrière notre écran, Seigneur, que tu sois avec nous, et Seigneur, nous voulons invoquer ta présence et aussi l'invoquer pour les personnes qui n'auraient pas pu nous rejoindre. Seigneur, tu les bénisses aussi là où elles sont. Alors Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois là au milieu de nous. Amen. Ça y est, vous êtes prêts à partir? Vous êtes prêts à partir pour la Macédoine? Vous êtes tous équipés? Et puis en fait, si on y allait en chantant? Alors c'est sûr qu'ici, dans cette salle, on ne peut pas chanter, mais on peut psalmodier, donc ça veut dire qu'on peut chanter derrière notre masque tout doucement. Donc je vous encourage non seulement à psalmodier derrière votre masque, mais également à vous lever pour ces deux chants que vont nous accompagner le groupe, une partie du groupe Ertos. Merci.
Toutes les montagnes, bénis l'Éternel, ô mon bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix.
Amen. Amen. Qu'il en
Nous aurons maintenant la lecture qui va servir à la prédication de Paul Robert. Alors merci Francine.
Bonjour, je lis dans Actes 17, versets 1 à 9. Ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie, et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant trois sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que, d'après elles, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres Juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein ? Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors, ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. « Ces individus, criaient-ils, ont mis le monde entier sans dessus dessous, et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. » Ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution.
Eh bien, bonjour à chacun, à vous ici, dans cette salle à Mérin, bien sûr, et à vous tous qui êtes, pas derrière, mais je pense devant votre petit écran. En effet, comme il a été dit, les quelques dimanches qui vont suivre Philippe et Célina, nos pasteurs, vont dans leur message aborder et commenter la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, aux habitants de Thessalonique. C'est pourquoi, ce matin, nous allons découvrir, par la lecture des Actes, l'arrivée et l'annonce de l'Évangile par Paul et Silas à Thessalonique. Je vais essayer avec vous de sentir le terrain de cette région. On l'a déjà un petit peu senti par les photos et la musique qu'on a eue tout à l'heure. De dresser peut-être quelques points de repère et voir ensemble comment Paul partage la bonne nouvelle en Jésus-Christ et comment cette bonne nouvelle est reçue. Oh, il y a bien des années, j'étais jeune marié. Et puis, avec mes différentes études dans le bois, j'étais passionné d'histoire et d'architecture, d'architecture ancienne notamment. Et nous décidions avec Anne-Béatrice, mon épouse, de visiter la Grèce et de découvrir son patrimoine architectural. On en a vu quelques exemples. Alors nous voilà partis pour un grand voyage par la route, aller et retour jusqu'en Grèce. Passage du col du Saint-Bernard, traversée du haut de l'Italie, traversée à l'époque de la Yougoslavie, qui était un pays communiste, réunissant la Croatie, Monténégro, etc. Détour autour de l'Albanie, qui était un pays complètement fermé, communiste chinois, interdit de passage à tout occidental. Et finalement, arrivé lors d'une fin de journée en Macédoine, en Grèce. Le lendemain, nous découvrions, émerveillés, notre premier point de chute dans ce pays, la ville de Thessalonique. On peut voir peut-être où elle se situe, cette ville. Voilà, vous voyez, Thessalonique se trouve tout en haut, au nord de la Grèce, au fond d'un golfe dans la mer Égée. Un peu plus loin, il y a Philippe. En face, c'est la Turquie, c'est l'Asie, où il y a Troas, qui est tout près du Bosphore, là-bas en haut. Et puis, bien sûr, il y a Athènes et Corinthe, des villes où les Actes vont nous en parler. C'est la photo suivante. Voilà, Thessalonique. Thessalonique, une grande ville, avec son riche passé, ses églises orthodoxes, on en voit une ici, et puis ces divers monuments qu'on peut voir dans cette ville. Fichier 3. Encore une ville, vous voyez, avec un fort en haut et une descente en pente douce sur un port d'une certaine importance. Et cliché 4, voilà, une histoire remontant à l'Empire romain en tout cas, et certainement plus vieux, dont nous voyons ici les restes de l'Agora et du Forum. Certainement qu'il y a 2000 ans, Paul et Silas ont foulé ces pavés-là. Mon épouse et moi, c'est bon, merci, on ressentait une certaine émotion, pensant qu'à ce lieu, il y a... À l'époque, c'était presque 2000 ans, une église existait, la première église de Thessalonique chrétienne, vivait, témoignait de la grâce en Jésus-Christ. Un des premiers lieux où l'évangile arrivait chez nous en Europe, grâce au ministère d'implanteur d'église de Paul. Alors, à ce moment-là, nous sommes dans les années 40 après Jésus-Christ. Dans ces années-là, Paul est en voyage. Il effectue son deuxième voyage missionnaire, accompagné par Silas, voyage lui faisant faire une grande boucle depuis Antioche, au nord d'Israël, passant par la Turquie actuelle, arrivant en Macédoine, Thessalonique, Philippe, et descendant par la Grèce sur Athènes et Corinthe, et retour par diverses étapes jusqu'à Jérusalem et Antioche. Ce voyage les a conduits jusqu'en Europe. Ce n'était pas l'intention de Paul au départ. Il pensait, premièrement, comme il disait à Barnabas, revisiter, voir les églises qu'ils avaient fondées en Turquie. Et c'était son intention d'aller voir comment ses frères et ses sœurs allaient. Et puis, il pensait peut-être à partir un peu plus sur le nord. Mais l'Esprit Saint, on voit dans ce texte, les guide pas à pas vers l'Europe, vers nous. Arrivé à Troas, c'est encore en Turquie, donc on l'a vu, près du détroit du Bosphore, tout en haut, Paul a eu une vision. Et nous allons lire, merci, cette vision qu'il a et ce qui se passe juste avant dans Actes 16, versets 8 à 10.
Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile.
Tu vois encore deux versets avant, si c'est possible.
Deux versets avant.
Ouais.
Alors, parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet.
Et plus haut, parce que j'ai du mal de donner, c'est depuis ouais. C'est combien ouais.
J'ai fait depuis le 8.
Oui, ouais. Mais ça ferait rien.
Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendus au port de Troas. Et c'est là qu'il a sa vision.
Merci. M'excuse, hein, j'ai pas donné assez de versets plus haut. Parce que c'est vrai que cette vision et ce que va vivre Paul est vraiment important et étonnant. Au verset 6, nous voyons que ils étaient empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Au verset 7, ils tentent d'aller en Bithynie, un peu sur le nord, donc. Hein, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et au verset 9, à Troas, Paul avance quand même, et Paul a cette vision d'un Macédonien, un Grec, qui le supplie de venir à leur secours là-bas en Macédoine. Empêchés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus ne permet pas une vision. C'est en fait la puissance de Dieu à l'œuvre. Les intentions de Paul sont bonnes et sont le fruit de son appel reçu bien des années auparavant. Cependant, le plan du Seigneur, lui, est différent. Il voit bien plus loin, au-delà de nos regards d'hommes, au-delà de nos limites, par-dessus notre épaule. Et c'est extraordinaire. Parce que Paul, après tout ça, on voit qu'il est à l'écoute, qu'il est disponible, qu'il n'est pas figé dans sa perception des choses. Après cette vision du Macédonien appelant au secours, Paul conclut que c'est le plan de Dieu pour lui. Et il cherche à rejoindre la Grèce au plus vite pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et nous voyons qu'en plus d'être à l'écoute, disponible, il est obéissant. Ne nous mettons-nous pas parfois à l'étroit dans notre service, notre ministère, fixé sur un objectif, ne regardant ni à droite ni à gauche. Ou bien nous avons parfois cette attitude un peu suffisante, un peu fière, dans nos relations avec les gens autour de nous, nos collègues, nos amis, nos enfants, notre couple, tellement sûr de soi qu'on ne voit pas les signes appelant à un changement. Avoir la nuque raide, nous dit la Bible. Avoir la nuque raide. Fonçant sans s'occuper de l'autre, de notre prochain, de son regard peut-être un peu différent du mien. Son regard différent sur les choses de la vie. Oubliant de ralentir, de s'arrêter. Stop ! Fais silence. Prends le temps de méditer, de prier, d'écouter. Une parole, un verset, un signe de Dieu, afin de saisir, ou plutôt ressaisir, le plan de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Et Paul et Silas prennent le bateau et débarquent à Philippe, de l'autre côté de la mer Égée. Philippe, c'est une ville de Macédoine, une colonie romaine. C'est la première ville d'Europe qui entendra l'Évangile. Et partant de Philippe, on l'a lu, passant par Amphipolis et Apollonie, ils arrivent à Thessalonique, ville qui existe toujours. Et là, Paul ne traîne pas. Sûr de son appel pour les Macédoniens, il se rend, comme à son habitude, à la synagogue et discute, nous dit la parole, pendant 3 sabbats, 3 semaines. Les commentaires disent que c'était certainement un peu plus, voire plus avec les Juifs, mais aussi avec des païens, des hommes et des femmes adorant Dieu, craignant Dieu, comme on les appelait. Ils discutent à partir des Écritures. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'existe pas. Les lettres de Paul aux Thessaloniciens, écrites dans les années 50 et 51, sont les premiers écrits du Nouveau Testament, avant les évangiles. Pas d'évangile, pas d'actes des apôtres, pas d'épîtres, pas d'apocalypse, il n'y a à disposition que l'Ancien Testament. Et Paul, à partir de l'Ancien Testament, discute. La Bible, dans la version G, ouvre le sens des Écritures. Il ouvre le sens des Écritures pour établir que Jésus est le Messie, le Christ. Certes, les Juifs, à cette époque-là, et encore aujourd'hui pour certains, attendent le Messie, voire 2 Messies. L'un victorieux, le fils de David, le roi, celui qui va combattre, qui va gagner, qui va chasser les Romains, notamment à cette époque. Et puis l'autre, c'est le Messie souffrant, appelé le fils de Joseph, le fils de l'homme. Nous, nous savons qu'il y a un seul Messie, un seul Christ, nous dit la Bible, mais qui vient 2 fois. Une fois, il y a 2000 ans, et il viendra encore une 2e fois, mais cette fois-ci, il reviendra glorieux, victorieux, fils de David. Tout œil le verra, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul, lui, à ce moment-là, annonce le Messie souffrant. Celui qui a quitté la gloire de son Père, nous dit les Éphésiens, est venu jusqu'à nous, porter nos fautes, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Certainement que Paul, je te dis, quel écrit il a pris dans l'Ancien Testament. À lui expliqué Ésaïe 53, le serviteur souffrant, méprisé, abandonné, dont on détourne le regard. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a porté nos douleurs, qu'il a porté, transpercé pour nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a porté le péché d'une multitude. Je résume un petit peu. Et puis, Ésaïe 7, verset 14, là c'est un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra en monde un fils, elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, un autre signe, dans Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi, celui qui dominera Israël. » Au verset 4 de ce même chapitre de Michée, « C'est lui qui sera la paix, le prince de paix. » Ou encore Ésaïe 11, verset 1, « Alors, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le souffle du Seigneur reposera sur lui. » Isaïe, pas Ésaïe, Isaïe ou Jessé est le père du roi David. On l'a entendu dimanche dernier. L'aveugle l'appelle « Ô Jésus, fils de David ». Pas vrai ? Dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la venue, la vie, les souffrances, la mort et la résurrection, environ 300 prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplis par Jésus-Christ. Ce Jésus que moi, Paul, je vous annonce, c'est lui qui est le Christ, le Messie. C'est le Sauveur du monde. Voilà ce que Paul répète en s'appuyant sur l'Ancien Testament, en ouvrant le sens des Écritures. J'aime bien ce terme. Quelques-uns des Juifs qui sont là sont persuadés et se joignent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude d'adorateurs, ces craignant Dieu, qui croient à ce que Paul affirme, et nombre de femmes parmi les gens bien, les notables. Et c'est ainsi que dans la maison de Jason, je pense, naquit l'église de Thessalonique. On connaît quelques-uns des frères. Il y a Jason, qui a été traîné devant le tribunal. Et puis dans Acte 20, on voit qu'il y a Aristarque, et Secondus de Thessalonique. Plus loin, Aristarque, on voit que de Thessalonique accompagne Paul dans son voyage à Rome. Donc on connaît quelques noms de ces gens-là, de l'époque. Cette église de Thessalonique, Paul l'aime. Il l'aime profondément. Un Thessalonicien, 2 au verset 7, je vais peut-être manger un petit peu sur les messages, mais non. Il dit qu'il les aime comme une mère aime ses enfants, pleine de tendresse, qui prend soin de ses enfants et les nourrit. Au verset 11 et 12, il dit, il les aime comme un père et pour ses enfants, encourageant, réconfortant, enseignant. Au verset 1 de ce même chapitre, Paul les appelle frères. Au chapitre 1, nous voyons que c'est une église modèle. Au verset 7, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. C'est ce qu'on lit dans le premier épître aux Thessaloniciens. Et puis au verset 8, on voit que c'est une église vivante, agissante. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Ah, c'est beau, hein ? On en redemande. Alors je me suis dit, et puis nous, église évangélique de Merin, nous sommes une église que le Seigneur aime. Et là, c'est une certitude. Il aime chacun d'entre nous, puis il aime notre communauté. Sans oublier les autres, bien sûr. Mais nous sommes une église, l'église évangélique de Merin, que le Seigneur aime. Sommes-nous une église modèle, à l'écoute, disponible? Sommes-nous une église vivante, agissante, voire obéissante? Je ne vais pas répondre à cette question. Je nous laisse la question. Je vous laisse la question. À nous d'y répondre. Le récit ne s'arrête pas là. Malheureusement, l'annonce de la bonne nouvelle suscite des réactions. Car l'évangile, quand on l'annonce, bouleverse, questionne, oblige à un positionnement. Pour certains, c'est un retournement, une vie changée, une vision renouvelée. Pour d'autres, on l'a lu dans le texte, c'est la jalousie, qui est la mère de beaucoup de vices. Et ces juifs-là, jaloux, sa coquine avec de mauvais garçons tirés de la populace. Ils provoquent des attroupements, de l'agitation. Ils assiègent la maison pour chercher de Jason, pour chercher Paul, et leur faire du mal, Paul et Silas. Ils traînent au tribunal Jason, l'accusant d'annoncer, lui et tous les autres, un autre roi que César, un nommé Jésus. Accusation, et il y a des gens retentis à Jérusalem lors du procès du Christ. Et comme l'a dit si bien mon ami qui a lu tout à l'heure, ne sommes-nous pas aujourd'hui dans un même monde ? Un même monde. Fake news. Tiens, c'est un nouveau mot que j'ai appris en anglais. Fake news. Fausse nouvelle, ça veut dire. Manifestation pour tout et pour rien. Opposition, cachotterie, tricherie, mise en doute par les médias ou des médias. Procès unique, demi-vérité, voire mensonge. Et là, dans ce contexte, il faut tenir notre position de chrétien. Et ce n'est pas facile. Quand on parle de la pandémie, puis est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire, les autorités, oui, non. C'est pas facile de tenir. Il y a des avis très divergents. Et quand il y a beaucoup de choses, on aurait tendance peut-être à se faire, en tout cas pour moi, se faire un peu petit, invisible. Nous voyons là, à Thessalonique, que le message de Paul provoque des réactions. D'ailleurs, quand j'ai lu la première fois ce texte, c'est la première pensée par rapport à ce message qui m'est venu. Et moi, chanson, Paul Robert, mon passage de chrétien dans ce monde, dans ma famille, au travail, en vacances, à l'école, au collège, avec mon voisinage, etc., etc. Mon passage de chrétien, que provoque-t-il ? Qu'est-ce qui provoque mon passage de chrétien ? Rien. Je suis peut-être tellement dans le monde, immergé dans le monde, plaisant et dans le monde, que mon témoignage de chrétien est devenu complètement invisible, inaperçu. Mon passage de chrétien dans ce monde, que provoque-t-il ? Rien. Peut-être que je suis tellement hors du monde, menant une vie tellement spirituelle, ecclésiale, de petits saints, comme on dit, je déplais complètement au monde, je suis mis à l'écart, et là également, mon témoignage passe au-dessus des gens, inaperçu. Mon passage de chrétien dans ce monde, que provoque-t-il ? Des réactions ? Positive ou négative. On l'a vu avec Paul, hein. Il y a ceux qui ont cru, puis il y a ceux qui l'ont traîné au tribunal, enfin Jason. Pour ma part, j'essaye de maintenir l'équilibre, être comme le Christ nous dit dans sa prière de Jean 17, 1 à 3, la prière dite sacerdotale. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mon témoignage, en essayant d'avoir cet équilibre, est alors, je pense, visible. Pour ma part, comme j'ai dit, j'essaye. Que ce soit là où je suis. Oh, des fois, je me cache, hein, je dis rien. Mais des fois, quand même, je me rappelle, on a fait des choses ensemble, on a fait de l'évangélisation, puis il y a le témoignage personnel au travail. Je me suis fait ficher de moi, quand même, des fois, au travail, dans mes pensées. En croyant que Jésus est né de la Vierge Marie, simplement. Eh bien, il y a des fois du fruit. Il y a des fois des bonnes réactions. On peut causer avec les gens, on peut aller plus loin. Puis parfois, c'est l'échec. Une non-compréhension. Mon vis-à-vis ne comprend pas. Alors je m'efface un peu, pour ne pas provoquer un rejet de l'Évangile. Paul, lui, a dû fuir cette belle ville de Thessalonique. On sait qu'il y est revenu. Il a refait un voyage, etc. Il est revenu. Mais l'amour de Dieu pour les hommes, manifesté en Jésus-Christ, a été planté là-bas. Et de là, la bonne nouvelle s'est répandue en Europe et dans tout l'Occident, jusqu'à nous, à travers les siècles, par celles et ceux qui ont pris le relais après Paul. Quel encouragement pour vous, pour moi. Et puis, ce passage de Paul à Thessalonique nous a laissé deux belles lettres aux Thessaloniciens, la 1 et la 2, que nous allons pouvoir étudier ces prochaines semaines, pour nous affermir dans notre foi chrétienne, pour trouver le chemin, pour être à l'écoute de ce que Dieu veut peut-être dire à notre communauté. Amen.
Thank you.
Je vais vous proposer maintenant un moment de prière communautaire. Je crois que dans la prédication de Paul Robert, j'ai repéré quelques phrases. Donc, où Dieu voit bien plus loin que nos limites. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet d'encouragement. Et aussi, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce Messie souffrant qui nous a rejoints là où nous sommes. Et puis aussi, ce Saint-Esprit qui nous ouvre les Écritures, qui nous ouvre le sens des Écritures. Et l'amour de Dieu, où, en tant que chrétien, on peut planter l'amour de Dieu, que ce soit à Thessalonique, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans notre voisinage. Et merci Paul Robert pour ce rappel. Et je vous propose que nous prenions un temps de prière communautaire. Alors, vous pouvez enlever votre masque si vous souhaitez prier. Et puis, peut-être chez vous aussi, vous pouvez se joindre à notre prière par la vôtre. Et puis, on conclura par le symbole des apôtres, donc le credo, symbole des apôtres. Alors, prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes à Mérin, nous sommes dans d'autres régions, nous sommes dans nos familles, nous sommes dans nos lieux de travail, dans nos voisinages. Et Seigneur, nous pouvons apporter l'amour du Christ. Et Seigneur, c'est vrai que ça peut susciter des réactions, ou bien pas, ou des rejets, ou je ne sais pas, mais Seigneur, nous sommes porteurs de cet amour que tu as mis en nous par ton Esprit Saint. Et Seigneur, des fois, ce n'est pas artificiel, mais les gens viennent parler ou les gens viennent chercher quelque chose, viennent chercher un réconfort. Et Seigneur, nous sommes là, on ne sait pas trop pourquoi, mais nous sommes disponibles. Alors Seigneur Jésus, que nous n'ayons pas ce coup raide ou bien cette peur, que nous puissions être des témoins de cet amour que tu nous as transmis et que nous voulons transmettre aux autres. Seigneur Jésus, oui, que cet amour vraiment nous rejoigne et que nous puissions le distribuer. Amen. Amen. Thank you. Oui, Seigneur Jésus, que par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous rendes humbles et que tu nous rendes disponibles. Et Seigneur, que tu suscites aussi des opportunités. Et Seigneur, que nous puissions nous rendre compte que, eh bien oui, c'est toi qui nous as mis cette vision, c'est toi qui nous as mis cette personne sur notre chemin. Alors Seigneur Jésus, que nous puissions être sensibles à ta parole, à cette vision, comme Paul a eu avec Silas. On ne sait pas trop comment tu l'as empêché d'aller dans certaines parties de la Turquie, mais Seigneur, que nous puissions être sensibles à tes inspirations, à tes sollicitations, et Seigneur, que nous puissions y répondre en tant que témoins, tout simple, mais que nous puissions y répondre. Et Seigneur, c'est aussi tellement de joie de pouvoir répondre quand on peut parler en ton nom. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce temps aussi que toi, tu nous rejoins et toi, nous pouvons partager cet amour que tu as mis en nous, que nous pouvons le partager aussi à d'autres. Amen. Maintenant, je vous propose que nous terminions ce moment de prière par le symbole des apôtres. Nous puissions le dire tous ensemble. Alors je vous demanderai peut-être de vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est monté, il est descendu. Troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous propose peut-être avant les annonces, encore ce beau chant du groupe Lucéa.
Nous retrouvons face à mes erreurs. Bonjour. Quelques annonces. Alors, je vous rappelle que le vote pour la ratification du GRC, donc le groupe de recherche du Conseil. Vous avez encore une semaine pour répondre, pour voter, mais merci à ceux qui l'ont déjà fait. Il y en a déjà eu plusieurs. Jeudi soir, rappel, il y a une séance du Conseil par Zoom encore. Voilà. Quelques nouvelles du groupe de jeunes cet été. Alors, le groupe de jeunes est toujours en fonction. Les séances ont lieu par Zoom, ce qui est évidemment un peu différent. Il n'y a pas les avant-soirées, après-soirées qui font le sel de ces rencontres, mais ça a toujours lieu avec une participation assez diverse. C'est forcément un peu plus difficile de motiver les jeunes de venir se mettre devant leur ordinateur, mais les responsables assument toujours un programme et essayent de maintenir ce contact. Donc on peut penser aux jeunes. C'est vrai que c'est pas une période très 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 facile, mais pour qu'ils soient renouvelés, les responsables. Et si vous connaissez des jeunes qui pourraient venir rejoindre ce groupe, même si c'est encore par Zoom, vous pouvez leur conseiller. Et adressez-vous aux responsables. Il y a Mathieu, il y a Ludovic. Alors, adressez-vous à eux, ils vous donneront les renseignements. Et je pense que, effectivement, c'est une période qui n'est pas facile pour les jeunes. C'est difficile de se motiver quand tout est, que ce soit pour l'école, que ce soit pour différentes choses. Pour des fois, le moral n'est peut-être pas très, très bon. Et c'est certainement pour eux bienfaisant aussi s'ils peuvent avoir des ressources, des jeunes qui les entourent, qui prient. Alors, pensons aux jeunes, ne les oublions pas dans cette période. Des nouvelles de Charline, donc, qui est en Guinée. Alors, elle a envoyé une lettre de nouvelles. Peut-être vous l'avez reçue par mail. Autrement, il y a quelques exemplaires sur le présentoir. Elle va bien, elle arrive déjà à la moitié de son séjour en Guinée. Évidemment, la température n'est pas tout à fait la même que chez nous. Hein. Maintenant, il fait vraiment très chaud. Elle a vécu forcément une fête de Noël bien différente de celle dont elle avait l'habitude, déjà par la chaleur. La fête de Noël se vit vraiment dans l'église. Alors, en grand, c'est vraiment une grande fête. Ils chantent beaucoup, elle fait partie de la chorale de l'église. Et puis, comme là-bas, ils n'ont pas le Covid, alors ils peuvent prendre dans les bras, s'embrasser, ce qu'ils apprécient. Ils ont chanté « Joyeux anniversaire » parce que c'est la fête de Jésus. Donc, ils chantent à Noël, ils chantent tous « Joyeux anniversaire à Jésus ». Le mercredi matin, elle va avec Lélia, donc la fille chanson, dans une école maternelle de la ville. Les enfants, c'est forcément que l'enseignement est très 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 différent d'ici, mais pour elle, c'est aussi l'occasion d'apprendre aux enfants, de faire des choses différentes, d'apprendre aussi aux maîtresses d'une manière différente ou des choses qu'elles peuvent faire dont elles n'ont pas l'habitude là-bas. Pour ça, la formation qu'elle a commencée ici lui rend bien service. Et puis la maîtresse est très contente qu'elle vienne. Alors évidemment, les classes, il y a 50 enfants, hein, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Et puis elle remercie tout le monde pour le soutien, que ce soit par la prière ou les petits mots qu'elle reçoit. Et donc, si vous aimeriez recevoir ces nouvelles par mail, vous pouvez me demander ou demander à Paul Robert, la commission mission. Et puis, il y a quelques exemplaires, là, si vous voulez les prendre. Philippe a aussi encore une annonce.
Bonjour à chacun, chacune. Grand merci, Paul Robert. Tu n'aurais pas pu mieux nous introduire dans le sujet qui va nous occuper pendant quelques semaines. Et c'était un sacré défi de prendre ce texte. Merci de l'avoir relevé. Nous allons donc démarrer notre survol de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens dimanche prochain. Et puis, chacun des cultes consacrés à la première aux Thessaloniciens sera suivi par un atelier biblique en ligne le mardi soir. Alors, pas forcément sous la forme d'un enseignement approfondi, mais plutôt sous la forme d'un temps de partage, d'encouragement, d'édification. Donc je vous lance un défi. C'est de lire la première aux Thessaloniciens. Je crois 79 versets, 5 petits chapitres. C'est en gros une dizaine de minutes de lecture, pas plus. Mais je vous lance ce défi, lisez cette lettre, relisez-la, mettez dans la marge des idées fortes qui vous sautent aux yeux, des questions qui vous viennent à l'esprit, et on prendra le temps ces prochaines semaines pour les évoquer ensemble dans les ateliers bibliques. Vous verrez, il y a plein de sujets passionnants, je les redécouvre actuellement en travaillant cette lettre. Par exemple, on parle du retour de Christ. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Moi, je trouve intéressant d'avoir le temps de s'y arrêter. On parle de fin de vie dans la première aux Thessaloniciens. On parle de l'idée d'être des modèles. On parle de sexualité ou d'éthique sexuelle. Des sujets donc que nous allons aborder. On va les prendre par le menu. On va se donner le temps et la peine de le faire, à la fois en prédication et puis ensuite en atelier biblique. Relevez le défi. Je vous encourage. Ça vaut vraiment le coup. Merci.
On a entendu des nouvelles du groupe de jeunes et puis de Charline. Et en tant que frère de cette église, je désire qu'on prie et qu'on remette le groupe de jeunes, ses responsables, tous ensemble, puisqu'on est réunis entre les mains de Dieu et qu'il les bénisse. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que nous avons un groupe de jeunes dans notre communauté. Et ce groupe de jeunes, ça fait des années qu'il tient le coup. Et c'est une grâce de ta part pour nous, Seigneur. Et nous te demandons de bénir ce groupe dans cette période difficile qu'il traverse. Comment, Seigneur, toujours faire palpiter les choses quand on se voit qu'à travers des écrans. Merci parce que tu vas renouveler les responsables dans leurs idées, dans leur manière de faire, dans leur invitation, dans leur partage de l'Évangile, dans les réactions qu'ils vont provoquer. Tu les bénis, Seigneur, tout spécialement. Et nous pensons à la jeunesse en particulier. Encore hier, nous entendions aux nouvelles qu'il y avait beaucoup de déprime. Seigneur, c'est vrai que cette pandémie touche beaucoup et sur un plan moral, psychique, auquel on ne s'attendait pas, en tout cas pour ma part. Seigneur Jésus, que nous remettons tout ce temps pour notre monde entre tes mains. Bien sûr, nous voulons encore penser aussi à Charline. Tu l'as bénie là-bas, en Guinée, s'il te plaît, Seigneur. Tu l'as réjouie dans son cœur, dans son service pour toi. Et tu la réjouis dans son service aussi pour tous ceux qui sont autour d'elle. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous propose de vous lever. Allons dans la paix que Jésus nous donne. Soyons sûrs qu'il nous aime, qu'il aime notre communauté et qu'il désire nous voir, vibrer pour lui. Allons dans sa grâce qui nous accompagne jour après jour et cette semaine qui vient. Bon dimanche à chacun. Amen.
Je vous rappelle donc de ne pas trop traîner dans ces locaux. Également, vous trouverez la boîte pour la collecte à la sortie, donc pour les activités de notre église. Et puis, c'était super de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et puis, on vous souhaite effectivement un bon dimanche, une bonne semaine. Et vraiment, soyez bénis les uns et les autres, les unes et les autres, pour votre présence et pour le témoignage que vous pourrez donner à l'occasion, suivant l'opportunité. Bon dimanche à chacune et à chacun.